extrêmement vaste et donc extrêmement important pour le Seigneur. Vous savez, si la Bible parle beaucoup d'un sujet, généralement, c'est parce que c'est une clé en soi. À Laban, il s'est passé quelque chose cette semaine, récemment, c'est qu'il y a eu une altercation entre deux personnes et ça s'est mal passé. Vas-y. Voilà. Et donc, ça s'est mal passé. Bon, après, la situation s'est calmée. Et puis, un jour, la personne avec qui l'autre personne s'était attrapée est passée dans le service et cette personne lui a dit quelque chose. Et quand elle m'a répété ce qu'elle lui avait dit, je lui ai dit, tu as dit ça? Et alors, elle sonne vers moi, elle me dit, bah oui, pourquoi? J'ai dit, tu as dit ça? Et quand j'ai entendu ce qu'elle lui avait dit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quel manque de sagesse de dire ça au regard de ce qui s'était passé, d'aller lâcher une phrase comme ça. Pour moi, c'était un manque de sagesse parce que ça risquait de remettre le feu aux poudres. Bon. Et en méditant dessus, je me suis dit, franchement, s'il y a des situations qui arrivent, il y en a beaucoup qui n'arriveraient pas ou qui s'arrangeraient très vite si on avait plus de sagesse. Et devinez de quoi on parle ce matin ? La sagesse. Très souvent, on dit, ah, le diable a fait ceci dans ma vie, le diable a fait cela, blablabla. Et finalement, si on prenait le temps de regarder et d'analyser la situation, on verrait que c'est tout simplement notre manque de sagesse. Ça vous est déjà arrivé? Ah ouais, bien sûr, moi aussi. Et c'était simplement un manque de sagesse ou dans mes décisions, dans mes paroles ou dans mes pensées. En pensant à la sagesse, il y a quelque chose que souvent les gens confondent, c'est un niveau intellectuel et la sagesse. Ce sont deux choses différentes. Des fois, on se dit, comment lui, il est bardé de diplômes et comment est-ce qu'il a pu s'emberlicoter dans une telle situation? En fait, ce n'est pas parce que intellectuellement, il a un très haut niveau, ce n'est pas parce que intellectuellement, il a beaucoup de connaissances, c'est parce que c'est un manque de sagesse. On peut être bardé de diplômes, et c'est une bonne nouvelle, parce que ça c'est juste, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Mais on peut être bardé de diplômes et manquer de sagesse. Là, le niveau d'éducation académique, le niveau intellectuel n'a rien à voir avec notre niveau de sagesse. Normalement, tel que c'est, ça doit venir en complément. Alors bien sûr, j'encourage à faire les études. Bien sûr, c'est super si vous pouvez aller loin dans vos études, vous les étudiants, mais ce n'est pas suffisant pour prendre de bonnes décisions, pour savoir que dire, pour savoir comment faire. Quand j'ai été en mission, lorsque je faisais mes études bibliques, dans la réserve avec les Indiens, les Navajos. Alors moi, ça me plaisait parce que j'étais parmi les Indiens, ça m'allait. Bon. Et à ce moment-là, on nous a présenté un vieil Indien. Il n'avait pas les plumes, il était en jean avec une chemise tout bête, mais c'était un vieil Indien. On s'attend, hein? Ben non, ils n'ont pas les plumes. C'était un vieil Indien qui a commencé simplement à nous parler de la vie chrétienne, de donner juste des petits conseils. Mais ses conseils étaient tellement sages. Et quand il a parlé de ses conseils, c'était drôle parce que la présence de Dieu est venue. Et croyez-le ou pas, j'ai passé mon temps à pleurer dans cette réunion. Pas à cause de ce que j'entendais, mais parce que je voyais la sagesse sur ce vieil homme. La sagesse de quelqu'un qui a marché avec son Dieu, qui connaît son Dieu. Et c'était un moment tout à fait particulier. Cet homme n'avait aucune éducation. Mais il avait reçu, je dirais, l'éducation de Dieu. Alors vraiment, qu'est-ce que la sagesse? Et à vrai dire, qu'est-ce qu'est la vraie sagesse? Parce que la Bible nous parle de deux genres de sagesse. Regardez avec moi en Jacques 1:5, s'il vous plaît. Alors, c'est marrant parce que c'est le genre de sujet où tout le monde peut se sentir concerné, non? Il y a certains sujets, ça vous est déjà arrivé, vous êtes sur votre banc et puis vous entendez, enfin votre chaise, et vous entendez un sujet, c'est ouf, heureusement, c'est bon, je suis au clair avec ça. Ça vous est déjà arrivé, vous dites, oh bon, peut-être ça servira plus tard, mais ce coup-ci j'échappe, je ne me sens pas concernée. Mais la sagesse est, bienvenue dans le club, on est tous concernés. Jacques 1:5, qu'est-ce qui nous est dit ici? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce que j'ai réalisé, c'est que la personne dont je vous parlais à la banque, elle a manqué de sagesse, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas réalisé qu'elle en manquait. La première chose, c'est d'être conscient, peu importe le niveau où on est. Est-ce que, d'après vous, on peut tous améliorer la sagesse? Bien sûr, on a tous besoin de passer un cran au-dessus. Mais le pire des choses, c'est de ne pas réaliser qu'on en manque. La deuxième chose, ce verset me dit qu'il est possible d'augmenter. La plupart des gens, si vous leur demandiez « t'as la sagesse », ils vous diraient non et ça s'arrêterait là. La plupart des gens croient ou on a la sagesse ou on l'a pas. Eh bien, pauvre, t'as pas la sagesse, tant pis, il va falloir faire avec. Et la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, si tu en manques, il est possible d'en avoir. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le verset où il est dit « manque », en grec, ça veut dire « lépo ». Et « lépo », c'est un mot qui définit un déficit, une pénurie, un manque de tout type. Grosso modo, la Bible ici nous dit, si tu as une pénurie de sagesse, si tu as un déficit, ça va aller, demande-en et tu auras cette provision. Et le mot déficit, manque des pénuries, c'est un mot qui en fait revient, vous vous souvenez, la pénurie d'électricité de LA, de Los Angeles? Il y a quelques années ou quelques mois, je ne sais même plus, années probablement, il y a eu un très gros déficit d'électricité. Toute la ville a été plongée dans le noir. Bon ben voilà, ça c'est le mot lépo, c'est-à-dire un manque. Et quand il y a un tel manque sur la ville, qu'est-ce qui s'est passé? La ville a été complètement paralysée et ça a empêché les événements qui devaient se produire pour ce jour-là de se produire, ou du moins ça les a grandement affectés. Et un manque de sagesse dans notre vie va faire exactement la même chose. Si on manque de sagesse, notre vie, d'une certaine manière, va être paralysée ou du moins n'ira pas où on devrait aller. Le mot sagesse, ici, en grec, veut dire sophos. Et sophos, c'est un mot qui veut dire éclaircissement, perspicacité, aperçu. La Bible nous dit ici, si quelqu'un a une pénurie de perspicacité, si quelqu'un a une pénurie d'éclaircissement, ou dans le tel cas, je veux dire presque d'éclairage, si quelqu'un a un manque de capacité à percevoir une situation, ben qu'il demande à Dieu. Et alors, vous verrez qu'il y a deux façons de percevoir. La Bible parle de deux façons. Et là, il est parlé de la façon de Dieu. Percevoir, on pourrait dire quoi? Si quelqu'un a un manque de regard concernant une certaine situation. Si quelqu'un n'a pas le regard là de Dieu sur une certaine situation, eh bien, il peut demander à Dieu de changer les choses. Et ça va pour les choses qui nous heurtent, et ça va pour les choses, les projets de Dieu. C'est pour le bon et c'est pour le mauvais. On a besoin, en tant que chrétien, pour les grandes décisions, tout comme pour les petites décisions, du regard de Dieu. Parce que le regard de Dieu va faire que nos décisions vont être affectées. Regardez avec moi un roi. On va voir l'exemple du roi Salomon. C'est marrant parce que j'entends dans mon cœur le chant qui continue à résonner. Tu es bon, tu es bon. Ça, boum. Alors, 1 Roi 3:7. Et c'est Salomon qui vient d'accéder au trône. Et il est jeune, ce Salomon. Et regardez ce qu'il va dire à Dieu. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, regardez, pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal. » On voit ici que Salomon était devant le fait qu'il, ça y est, il était en place, et il réalise, Dieu, j'ai pas ce qu'il faut pour gérer. Et là, il va demander à Dieu, et on voit qu'il y a encore cette connotation de discernement. Il va demander à Dieu, aide-moi à discerner quand les situations concernant ce peuple, aide-moi à voir quoi, parce qu'il Salomon, il faut comprendre, il avait certainement un certain regard sur les décisions qu'il devait prendre. Mais ce qui intéressait Salomon à l'endroit où il était, ce n'était pas son regard. Parce qu'il avait réalisé que son regard n'était pas suffisant pour discerner. Et là, il dit, Seigneur, donne-moi ton regard lorsqu'une situation se présente, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, donne-moi ton regard pour que je puisse comprendre la situation. Et comment est-ce que je sais que Dieu attribue ça à une demande de sagesse? Ben, c'est écrit, à vrai dire, au verset 12. Mais il est intéressant de voir qu'au verset 10, il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. On passe au verset 12. Et ensuite, il nous est dit là, « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur, quoi ? Sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à Dieu. » On voit ici que Salomon, de semblable à toi. Je voyais Elisa qui... Ok, merci Elisa. Et donc, Dieu a dit, « J'agrée parce que je suis content que tu aies réalisé que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir discerner. Et je suis content que tu aies fait appel à moi. » Proverbe 8, 12 nous dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure quoi ? Le discernement et je possède la science de la réflexion. » Proverbe 14, 8, il nous est dit, « La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie, mais la folie des insensés les égare. » On voit qu'il y a quelque chose qui est important dans le fait de voir les choses telles que Dieu les voit. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette capacité à discerner, cette capacité à avoir un certain regard sur ce qui se présente à nous, va avoir un impact direct sur les décisions qu'on va prendre, sur les conseils qu'on va donner, sur les réponses qu'on va donner, sur les choix qu'on va faire. Ça vous est jamais arrivé de demander à quelqu'un un conseil et vous lui avez expliqué votre situation, la personne a donné un certain conseil, vous avez agi en fonction de ce conseil et finalement vous avez aperçu que ce n'était pas la bonne décision? Pourquoi? Vous savez, la personne n'était pas méchante, la personne n'était pas, c'était pas parce qu'elle avait un mauvais cœur. Non, c'est tout simplement que la personne ou que vous-même, quand vous avez pris la décision, vous n'aviez pas vu. Vous n'aviez pas vu la situation qui était devant vous, en fait, telle qu'elle était réellement. Et ça, ça a un impact qu'on n'avait pas vu. Parce que très souvent, quand on manque de sagesse, on va voir la situation au moment M, à l'endroit où on est. Avec la sagesse de Dieu, on va voir devant, éventuellement on verra derrière, on verra l'impact et la direction. Et ça, c'est drôlement important. La sagesse, très souvent, quand on dit sagesse, on imagine un vieux homme blanc qui sort des grottes et qui est dans un semblant de paix. Très souvent, on associe la sagesse à ce vieil ermite qui sort du fin fond de la grotte. Vrai ou pas? Le monde pense que c'est ça. Que être sage, c'est presque se déplacer sur un petit nuage. Il faut avoir une position qui soit tout à fait calme, bien sûr. Et puis, y a toute une idée complètement mondaine ou religieuse de la sagesse. Amen. Mais vous savez, la sagesse, c'est du concret. La sagesse de Dieu est concrète. La sagesse de Dieu, ce n'est pas pour des grandes philosophies, des choses inaccessibles, des grandes idées philosophiques. Non, la sagesse, c'est du concret. La sagesse, la sagesse est quantifiable, elle est mesurable, elle est palpable, elle est visible. Et alors, vous dites, ah bon? Et comment tu vois la sagesse? Comment tu quantifies une sagesse? Très facile. Regardez les fruits. À vrai dire, la sagesse, c'est un regard qui est porté sur une situation, mais avec le regard viennent les fruits. Et quand il y a les fruits, eh bien, ça va vous dire quel est votre montant de sagesse. Vous pouvez très bien savoir quel est mon montant de sagesse. Je prends un risque, mais vous pouvez très bien regarder mon montant de sagesse. Regardez les fruits que j'ai dans ma vie. Je vais vous rassurer, je peux très bien voir. Non, je plaisante. votre montant de sagesse. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, il y a des fruits. La Bible, on voit, après la demande de Salomon, on voit que la reine de Séba a été visiter le roi Salomon. Et regardez avec moi en 1 Roi 10, 4. C'est un sujet sérieux, mais c'est un sujet qui nous... Il est humain, il est simplement humain, ça fait partie. Et Dieu merci que Dieu nous équipe. Dieu merci nous équipe. 1 Roi 10, 4 à 8 nous dit, et alors là ça me fait trop rire. La reine de Séba vit toute quoi ? La sagesse, elle vit toute la sagesse de Salomon. Et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctionnaires, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons. Et ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Ne serait-ce que ce verset, ça me dit que notre sagesse va impacter notre monde. Ensuite, il nous est dit, et alors là, ça me fait rire, elle en eut le souffle coupé. Grosso modo, elle est restée scotchée. De nos jours, elle est restée scotchée quand elle a vu ce que, par sa sagesse, Dieu avait donné à Salomon. Elle en eut le ah moi ça m'a fait rire quand j'ai vu. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. C'est intéressant de voir. Il y a tellement à dire sur ce sujet. C'est intéressant de voir que cette femme, quand elle s'est présentée devant le roi, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le fruit de la sagesse, c'était la richesse que Dieu avait donnée à Salomon. C'était la renommée, c'était la réputation. Et ce que je n'avais pas vu et qui m'a très, très, très étonnée au sujet de ta position. C'est intéressant, non? Je n'avais jamais vu ça. On voit que la sagesse est mesurable, quantifiable parce qu'elle porte des fruits. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi? Proverbe 16, 23 nous dit « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. » C'est-à-dire que la sagesse va porter des fruits dans nos paroles, va affecter nos actions, va affecter nos paroles. Et pour les actions, il y a Ecclésiaste 10, 10. Il y a plein de versets aujourd'hui, je vous lis de suite. Ecclésiaste 10, 10 qui nous dit « Si le fer de la hache est émoussé et que l'on ne l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. » Dans une autre version, il est dit, mais la sagesse a l'avantage d'assurer le succès. Qu'est-ce que nous dit ici Ecclésiaste? Il dit quelqu'un qui manque de sagesse, et là c'est très facile à imaginer, on imagine deux types là, qui moi ça me parle mieux quand je pense qu'ils scient, hein, c'est pas la hache, c'est la scie moi. On imagine deux gars qui scient, et tous les deux manquent de sagesse. La Bible nous dit ici, il va falloir à cause du manque de sagesse, qu'ils redoublent d'efforts pour obtenir le résultat pour lequel ils étaient partis. Mais la Bible nous dit ici, s'ils avaient de la sagesse, au lieu de continuer dans quelque chose qui est très difficile et pénible, la Bible nous dit, s'ils avaient la sagesse, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils changeraient de direction, ils iraient aiguiser la scie. Et là, il nous est dit, la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. La sagesse de Dieu va faire que l'on va aller à l'endroit où Dieu nous attend, mais pas en étant comme des écharpés, comme des gens qui sont vaincus. On va arriver en bonne santé avec tout ce qu'on, la force du Seigneur à destination. Devant une situation, une personne sans sagesse appliquera la mauvaise réponse à cette situation. La parole, comme je vous disais tout à l'heure, parle de deux sagesses. Regardez avec moi dans Jacques 3, 13. Je me suis régalée. Et pendant que je préparais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que tu me donnes plus de sagesse. Ça a été vraiment pendant tout l'étude sur la sagesse. Seigneur, plus j'étudiais, plus je réalisais que j'avais besoin de sagesse. Jacques 3, 13, 17, il nous est dit ici, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et là, on revoit, voyez, on retrouve encore cette idée que la sagesse, une sagesse, si on prétend avoir la sagesse, ça va se démontrer au travers de nos œuvres. Et ce que j'ai vu dans différentes versions, quand il est dit par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse, il en fait parle avec la douceur de la sagesse. Dans d'autres versions, c'est par l'humilité. La douceur de la sagesse correspond à l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est le simple fait de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. Ensuite, il continue et dit, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » En d'autres termes, ici, Jacques nous dit, si vous avez ces fruits-là, je vais vous dire de suite, arrêtez de suite, ne prétendez pas être sage. OK. On continue, verset 15. « Cette sagesse n'est point celle d'en haut. » Et c'est là qu'on trouve les deux sagesses. « Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Et quand j'ai vu ces trois définitions de la sagesse d'en bas, terrestre, charnelle, diabolique, j'ai remis ça avec qu'est-ce que signifie avoir la sagesse. La sagesse, c'est avoir une perception, un regard. Et une sagesse terrestre est une perception, et donc une réponse qu'on va donner à cause d'un regard mondain ou à la façon du monde que l'on donne par rapport à la situation. C'est ça la sagesse terrestre. C'est-à-dire, on voit une situation, on analyse cette situation d'après les critères du monde, et ensuite, bien évidemment, on donne une réponse à cette situation d'après les mêmes critères. La sagesse charnelle, et ça m'a plu, le Seigneur m'a montré ces choses et ça m'a plu. Il m'a dit, c'est une perception et donc une réponse donnée à cause d'un regard de ta nature humaine, à cause d'un regard de ta nature charnelle. C'est-à-dire, c'est une perception et une réponse que l'on va donner, non pas à cause du regard de Dieu, mais à cause du regard de notre âme, le regard de nos émotions, le regard de notre intelligence, le regard de notre propre volonté. C'est ça l'âme, non? C'est-à-dire, vous arrivez devant une situation bonne ou mauvaise, parce que ça peut être le choix d'un travail, ça peut être le choix de déménager, ça peut être ce que vous voulez. Parce que la sagesse, les décisions s'appliquent à tous les domaines. Et ici, il nous dit, si tu as une sagesse qui est charnelle, ça va te faire percevoir la situation, peut-être d'après tes peurs, peut-être d'après l'analyse intellectuelle que tu fais, peut-être d'après ce que toi tu veux. Et en fonction de cette analyse, de cette perception charnelle, tu vas donner des réponses qui vont aller dans la même lignée. Et pour terminer, une sagesse qui est diabolique, c'est une sagesse qui a une perception et qui donne une réponse en fonction d'un regard qu'aurait donné le diable. Parfait exemple, Hitler. Hitler avait une sagesse qui était purement diabolique, c'est-à-dire il a vu que sur cette terre, il y avait des groupes de personnes qu'il n'aimait pas. Les juifs, les homosexuels, tout ce que, je ne sais plus quels étaient les groupes concernés, mais il y avait plusieurs groupes qu'il n'aimait pas. Il a eu une perception de l'humanité qu'il n'aimait pas, en fait que le diable n'aimait pas, et en fonction de ce qu'il a perçu, il a donné une réponse que le diable lui-même aurait donnée à la situation. Il a dit, on extermine. C'est exactement ce que le diable aurait fait. Quand on a une sagesse qui est terrestre, on va donner la réponse que le monde donnerait à cette situation. Quand on a une sagesse qui est charnelle, on va donner une réponse que notre perception naturelle, que nos émotions, notre intelligence et notre propre volonté donneraient. Et quand on a une sagesse diabolique, on va donner, on voit qu'il y a trois niveaux, vous voyez ? Dans la sagesse du bas, il y a trois niveaux. La sagesse se développe progressivement. Ne croyez pas que ça vous tombe, vous réveillez un matin. Ah ! Sagesse. Non, la sagesse est progressive. Et là, c'est un parfait exemple des trois principaux paliers de la sagesse d'en bas. Et pour donner un exemple, vous savez, mon neveu, au moment où il voulait rentrer chez les pompiers, il a en fait, il s'est démis le genou et il a eu les ligaments croisés qui se sont déchirés. Il se trouve que la veille, son père venait de lui dire, écoute Alex, ne va pas jouer au foot parce que c'est trop une période trop difficile et si jamais il lui arrivait quelque chose, ta carrière va te filer sous le nez. Et notre ami Alex, fort de toute sa sagesse de 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus quel âge il a, ou peut-être 23 même. Non, il n'a pas 50, hein, je vous rassure, de suite. Non. Il a 20, à peu près, dans les 20. Et Alex, eh bien, fort de toute sa sagesse humaine charnelle, a décidé d'aller au foot. Et devinez ce qui s'est passé ? Clac ! Les ligaments. Mais je suis sûre que si on avait demandé à Alex, pourquoi, attends, quel manque de sagesse ! Pourquoi tu n'as pas écouté ? Et pourquoi tu n'as pas été, tu t'es abstenu de ne pas jouer ? Vous savez ce qu'il aurait dit, je suppose, hein ? Ce qu'on aurait dit nous-mêmes, ben, j'avais envie. J'avais trop envie de jouer au foot. C'est quoi ? Sagesse charnelle. Sagesse en fonction, perception d'une situation et réponse en fonction de ses émotions. Il y a une autre, j'avais une tante, vous allez dire, ça court dans la famille ou quoi, le manque de sagesse ? Non, je vous rassure. J'avais une tante qui, elle, avait des problèmes financiers très graves. Elle a fini, les huissiers ont tout emporté chez elle. Mais vous savez, elle avait un tel manque de sagesse concernant le domaine des finances que quand elle voyait quelque chose, elle achetait. Tout était dans le rouge, les huissiers lui envoyaient des lettres, mais quand elle voyait, je ne sais pas, un joli vase, eh ben c'était, elle n'avait pas besoin du vase, mais elle avait envie du vase. Sagesse charnelle. On voit que la sagesse d'en haut, contrairement à la sagesse du bas, c'est le regard de Dieu concernant une situation. Ça, c'est le regard du bas. La sagesse est progressive, il y a différents degrés. Et pour, j'aime bien les images. Et pour illustrer un petit peu les différentes sagesses, c'est comme si vous preniez des jumelles, ou une, comment on appelle ça, la grande télescope. Et vous, avec la sagesse humaine, vous allez regarder avec des jumelles qui simplement vous montrent la situation telle qu'elle est. Avec la sagesse de Dieu, c'est-à-dire le regard de Dieu concernant une situation, vous avez sur ces fameuses jumelles un zoom grossissant et un zoom rétrécissant. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, zoom in, zoom out. Voilà, zoom avant, zoom arrière. Et avec ces jumelles de Dieu, vous allez voir la situation, mais vous verrez plus que la situation. Et même si vous ne voyez pas, si vous avez eu l'habitude de suivre ce que vous avez dans le cœur, vous allez voir que ça va porter du bon fruit. Il y en a, je vous dis de suite, qui regardent, qui ont des jumelles, ils n'ont encore pas enlevé le cache. Hein. On a tous été dans ces situations, on regardait la situation, on ne voyait rien, mais on fonçait. Bon, eh bien, il suffit d'enlever le cache et ensuite de rajouter des lentilles qui sont grossissantes et rétrécissantes. Et ça, Dieu peut le faire. Alors, comment faire la différence entre les deux sagesses ? Ben, tout simplement en regardant les fruits. Proverbe 15, 24 nous dit « Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Alors, comment faire pour avoir cette sagesse ? Parce que ce n'est pas le tout de vous dire, il faut que nous, en tant que chrétiens, on n'ait pas la sagesse d'en bas, on n'ait pas la sagesse du monde. Mais alors, comment on fait pour l'avoir ? Il y a crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Proverbe 15, 33 nous dit, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité, la douceur de la sagesse, c'est moi qui rajoute, précède la gloire. » Qu'est-ce qu'est le début de la sagesse ? Si vous dites, ok, je réalise, j'ai besoin de sagesse, mais je ne sais pas par où commencer. Très simple, la Bible nous dit, commence à craindre l'Éternel. Alors quand il est dit craindre, ce n'est pas trembler dans ses bottes quand on pense à Dieu, quand on lit notre Bible. Non, c'est simplement une sainte révérence, un profond respect pour Dieu, pour sa parole, pour tout ce qui concerne les choses de Dieu. Et c'est très logique, parce que plus on a une sainte révérence pour les choses de Dieu, plus on prêtera attention à ce qu'il dit, plus on prêtera attention à ce que la parole va nous dire. Et plus on prête attention, plus on sera enclin à mettre en pratique. Et ça a du sens de voir que le début de la sagesse, c'est la crainte, la sagesse d'en haut. Vous savez, la sagesse d'en haut peut s'occuper des choses naturelles et des choses du royaume spirituel. Et la sagesse d'en haut va affecter les deux royaumes, le spirituel mais aussi le naturel. La sagesse d'en bas pourra affecter certainement le royaume naturel, mais certainement pas ce qui concerne le spirituel. On voit que quand on a la crainte, quand on a le respect profond des choses de Dieu, on est candidat à ce que la sagesse se manifeste dans notre vie. Très souvent, on a comme cette idée mondaine que la sagesse est une longue barbe blanche ou que la sagesse vient avec l'âge. Ça devrait, je suis d'accord avec vous, ça devrait. Normalement, avec les années qui passent, on devrait grandir en sagesse. Mais ce n'est pas la garantie, et pas la garantie du tout que la personne est sage. Job 32, 8, 9 nous dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable. » C'est bon ? J'ai découvert des versets qui m'ont scotché. Moi aussi, j'ai été séchée par la sagesse de Dieu. J'en suis restée le souffle coupé. Non, la sagesse de Dieu ne s'acquiert pas avec l'âge. Ça devrait, mais ce n'est pas le garant. La seule garantie de grandir dans la sagesse de Dieu, c'est la révérence. Et plus on grandit dans cette révérence, plus on grandit dans la sagesse d'en haut. Bon, maintenant, quand je vous ai dit comment commencer à avoir cette sagesse, il est intéressant de savoir comment Dieu concrètement va nous la transmettre. Non ? Ça vous intéresse ? Oui, ça vous intéresse. Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible nous dit que la parole est une lampe sur mon chemin, une lumière qui éclaire ma route. Jérémie 8, 8, 9 nous dit, et là c'était un endroit qui est très intéressant dans la Bible, c'était des serviteurs de Dieu qui avaient marché avec Dieu, qui avaient gardé les Écritures vivantes dans leur cœur, et ils marchaient dans la sagesse de Dieu. Et là, il se retrouve à un moment où Dieu dit d'eux, les sages sont confus, ils sont très pris de terreur et emmenés captifs, car ils ont rejeté la parole de Dieu. Et regardez la connexion qui est faite. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse? Et alors là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Vous allez dire, tu en as vu des choses, hein? Ben oui, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, c'est-à-dire que tant que vous marchez avec Dieu, tant que vous marchez dans la parole de Dieu, tant que vous recevez la parole de Dieu, tant que cette parole est vivante dans notre cœur, on va grandir en sagesse. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse n'est jamais acquise à jamais. Ici, il nous est très clairement dit que ces hommes étaient des hommes qui avaient marché dans la sagesse, dans la parole de Dieu. C'était des hommes qui avaient la parole de Dieu qui était vivante dans leur cœur, mais parce qu'à un moment ils ont rejeté la parole, ils ont perdu leur sagesse. Et je ne savais pas ça. Je vais vous dire franchement, je ne savais pas ça. On peut avoir été sage, mais si on commence à rejeter la parole, dites-vous bien que mon niveau de sagesse va descendre. La sagesse d'en haut, je parle. Quelqu'un avait vu ça? Non, moi j'avais jamais. Pour moi, la sagesse, une fois qu'on avait compris la sagesse de Dieu, qu'on avait acquis la sagesse de Dieu, on l'avait. Mais cet passage m'a vraiment mis en lumière le fait que la parole de Dieu, c'est ce qui éclaire, et c'est ce que dit la Bible. Elle éclaire une situation. Quand on commence à se détacher de la parole de Dieu, la lumière baisse. La lumière, vous savez. C'est bon ça. La lumière, il faut qu'elle soit constante. On ne peut pas avoir éclairé un moment et que la lumière baisse et avoir la même vision sur la situation. Pour avoir ce flot de sagesse, il faut que perpétuellement il y ait l'éclairage de Dieu. Gloire à Dieu. Ensuite, une deuxième manière par laquelle le Seigneur va transmettre sa sagesse, Et ça, c'est vrai pour les choses de Dieu, c'est vrai pour tout ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est à travers des anciens. Mais c'est vrai aussi pour la sagesse du bas. Les anciens, que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, ont un rôle pour nous transmettre la sagesse. Quand je dis anciens, je parle de gens qui sont plus vieux que vous dans le domaine, dans un certain domaine. Ça veut dire qu'un ancien, pour moi, par exemple, dans la cuisine, c'est un chef cuisinier. Ça ne veut pas dire qu'il est ancien dans tout, mais si je vais pour m'adresser à lui concernant la cuisine, pour moi, je peux le considérer comme ancien parce qu'il a beaucoup plus de connaissances. Un ancien pour moi, ça serait Marc. Marc serait un ancien pour moi si, dans le domaine des avocats, moi, je n'y comprends rien. C'est un ancien. Donc, la sagesse de Dieu, au travers de Marc, peut m'être donnée si je reçois son conseil. Bon, maintenant, concernant les choses de Dieu, peut-être que pour la plupart d'entre vous, je suis une ancienne. Voyez, il faut voir dans quel domaine on parle. Et la Bible nous dit en Job 12:12, il y a une chose que j'ai notée également et qui est très intéressante, c'est quand vous lisez les proverbes, on voit que la sagesse est personnifiée. Et pour moi, ce n'est pas une anecdote. Dieu va transmettre, bon, la sagesse de Dieu, c'est Jésus, mais Dieu va transmettre la sagesse au travers de sa parole, mais au travers des humains aussi. Des humains qui sont plus âgés que nous dans certains domaines. Job 12:12 nous dit quand les vieillards se trouvent dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. Proverbe 13:14 nous dit l'enseignement d'un sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Proverbe 29:15 la verge et la correction donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Les anciens ont son rôle de passer des principes de vie. Les anciens ont ce rôle de... Et il y a des fois où, pour passer ces principes de vie, un ancien va devoir corriger, vous, avec vos enfants. C'est pas ce qui se passe? Vous avez plus de sagesse que les enfants, non? Et bien, il y a des fois où vous avez enseigné... Yvan n'est pas sûr. Non, je plaisante. Il y a des fois où vous allez enseigner... Et parce que vous voulez transmettre une certaine sagesse de la vie, vous allez corriger. La Bible nous dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et la sagesse, le langage des sages, nous dit Proverbe 12:18, est comme un baume. Les anciens, quel que soit le domaine dans lequel ils opèrent, ont cette capacité à amener la guérison par entre autres certains conseils. Donc on voit dans la Bible que la sagesse de Dieu est accessible. On en manque tous et on peut tous en avoir plus. Elle va être transmise par la parole et elle va transmettre par les anciens et ça porte du bon fruit. Pour boucler la boucle, on voit aussi qu'il y a une manière très simple. Vous savez, à moins que Dieu ne mette son éclairage, honnêtement, on ne peut pas l'inventer. Si c'est un éclairage naturel, on appelle quelqu'un qui s'y connaît en électricité et ça branche et on a un éclairage. Mais vraiment, le regard de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce regard. Si vous avez une difficulté avec une personne ou avec une situation ou avec un choix, si vous ne voyez pas, si je ne vois pas, je ne vois pas. On peut faire ce qu'on veut. Je ne vois pas. Par contre, la Bible nous dit, tu sais, si tu n'as pas ce regard, il est toujours possible de le demander. Moi, je propose qu'on finisse ce service en disant, Seigneur, on va demander la sagesse. Parce qu'on peut tous grandir en sagesse. Dieu a besoin, vous savez, une des choses que je crois, c'est que Dieu a besoin de chrétiens matures. Qui dit chrétien mature, dit des chrétiens qui vont réagir aux situations avec le regard de Dieu, qui vont, mais dans quoi? Dans les choses de l'Église, certainement, mais aussi dans leur famille, dans leur travail, dans leurs finances. Dieu a besoin de chrétiens. Pourquoi? Parce que quand on marche dans la sagesse d'en haut, on montre à notre monde que ce n'est pas nous. On montre à notre monde qu'on a une sagesse qui est bien plus grande que moyenne générale, et ça nous donne la possibilité de parler de Dieu. Il y a une personne qui m'a dit, tu sais, encore à la banque, vous allez croire qu'il s'y passe des trucs à la banque. Mais en fait, en même temps, il y avait un autre problème. Et elle était en difficulté, vraiment dans une situation très critique. Et cette personne, elle est venue me voir, je l'ai aidée, j'ai lui donné des conseils. Et finalement, elle est partie. Mais le jour où elle est partie, elle est venue me voir, elle me dit, tu sais, je te remercie parce que ce que tu m'as donné des conseils, comme conseil, m'a vraiment aidée. Et là, j'ai pu lui dire, tu sais, ces conseils, ils sortent de la Bible. Ces conseils, ce n'est pas moi. Ces conseils, c'est parce que j'ai mis en application des principes qu'aujourd'hui, je peux te donner. On est supposé être béni, mais être une bénédiction aussi. On va finir par la prière. Hein, ça s'impose, je crois. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que la Bible dit, Seigneur, que vous connaîtrez la vérité et que la vérité nous affranchit. Père, nous réalisons ce matin, Seigneur, que nous manquons tous de sagesse, quel que soit le domaine dans lequel on opère, quel que soit le domaine, Seigneur, nous manquons de sagesse. Et Père, ce matin, nous voulons nous présenter devant toi. Et Saint-Esprit, nous te demandons de nous révéler la sagesse de Dieu, de nous éclairer suivant les situations avec le regard de Dieu, de nous donner un regard qui fasse que l'on fasse les bonnes décisions, prenne les bons choix. Seigneur, que les bonnes paroles soient dites. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, de me faire grandir en sagesse. Je te demande d'avoir le regard du Seigneur. Je te demande, Seigneur, que mon jugement, ma capacité à discerner le bien ou le mal, ma capacité, Seigneur, à discerner le bon ou le mauvais, ma capacité à discerner, Seigneur, le bon ou le meilleur, soit grandisse, Seigneur. Père, je te demande, donne-moi ton regard. Donne-moi ton regard pour aborder les choses, pour aborder les gens, pour aborder toutes ces nouvelles décisions. Père, donne-moi ton regard. Et Père, la Bible dit que je sais que tu nous écoutes. Et si je sais que tu nous écoutes, tu me donnes ce que je te demande. Père, je te remercie parce que je crois que je grandis en sagesse. Je crois que je grandis, Seigneur, dans ta connaissance, dans l'éclairage que tu mets sur une situation. Je le crois, Père, et je te remercie. Afin d'être béni, mais plus encore, mon Dieu, d'être une bénédiction pour mon entourage. Dans le nom de Jésus, Père, je te remercie. Amen. Amen.